Ce matin, comme vous avez entendu, j'ai reçu un appel. En fait, je flânais dans le lit, puis en train de relire mes notes pour l'étude, puis tout ça. Puis j'ai eu un appel de Joanne me disant que Denis était indisposé, puis tout ça. Puis là, je me suis mis sur le téléphone. J'ai rejoint Luc à Québec. Il était à Québec pour essayer d'avoir le numéro, parce qu'il n'a pas à bout de rejoindre Marc. En tout cas, il n'y a rien qui marchait bien. Il n'y avait rien qui marchait, parce que je voulais m'assurer de la musique. Mais là, je m'étais dit, je vais apporter ma guitare, puis je vais essayer d'improviser sans être amplifié ou quoi que ce soit, puis on y ira à bonne franquette. Puis en même temps, je vais aller voir dans les choses que j'ai faites dans le passé, voir si je pourrais pas réchauffer quelque chose que je serais familier avec. Et puis, l'Internet ne marchait pas. Parce que j'avais trouvé un message, puis je voulais l'envoyer sur l'autre ordinateur pour pouvoir l'imprimer. Puis finalement, les choses se sont arrangées. J'arrivais ici, Marc était ici, puis donc j'avais un peu moins. J'ai pu relire un petit peu mes notes. Puis ça va être fait à la gloire de Dieu. Et puis ce que je vais vous apporter ce matin, c'était dans le temps du pasteur Martel, donc ça doit faire au moins 12 ans que j'avais apporté une série d'études sur le cœur. C'était une étude de parfum. Et puis, j'avais apporté ça, puis une journée, le pasteur devrait s'absenter. J'avais déjà donné la première leçon, et puis il devait s'absenter. J'ai dit, écoute, je suis en train de préparer l'étude, puis je peux voir peut-être la leçon numéro 2, je peux peut-être la faire sous forme de sermon au lieu d'être dans une classe. Et puis, c'est ce que je vais faire ce matin, donc j'ai eu à l'imprimer. C'est encore actuel. Et puis, par contre, si vous me voyez dire des choses, on a vu la dernière fois que... Portez-en pas trop question, c'est parce que je me réfère à l'étude numéro 1 que je n'ai pas faite. Donc, patientez un petit peu avec moi, puis connaissant la situation dans laquelle j'ai été que je suis ici. Donc, comme je viens de vous mentionner, c'était une étude que moi j'ai été très béni. C'était sur justement le cœur de l'homme. OK? Puis afin de se placer dans le contexte d'aujourd'hui, je dois vous parler quand même qu'est-ce qu'il y a dans la première étude qui était une mise en demeure de la raison pourquoi qu'on étudie un tel sujet. Et puis, le titre du message d'aujourd'hui est « Où est mon cœur? » Et puis, on sait tous que le cœur, c'est l'organe vital qu'on a dans le milieu de notre poitrine, qui sert à pomper le sang jour et nuit pendant toute notre vie afin que nous puissions accomplir les tâches qu'on a à faire à tous les jours. Et sans notre cœur, on ne pourrait pas être ici en ce moment. Donc, c'est qu'on nous propose par des moyens préventifs de garder notre cœur en bonne santé afin d'éviter justement un infarctus ou bien non un AVC. Et puis, on nous propose d'avoir une meilleure diète, de faire de l'exercice, d'avoir des activités physiques, de bien se reposer, de faire des examens réguliers, etc., etc. Et puis, malgré tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut faire, on n'est pas toujours prêt à écouter les avertissements. Donc, est-ce que vous avez pris le temps d'examiner votre cœur, c'est-à-dire de faire les analyses sanguines, de faire tous les tests médicaux, de faire un électrocardiogramme, un électrocardiographe, et puis ceux qui ont fait le stress test, est-ce que votre cœur est en bonne santé? Le dictionnaire régulier va dire qu'il décrit cet organe-là comme étant un organe vital. Et le dictionnaire aussi nous parle aussi d'un autre cœur qui est un côté abstrait. Et c'est celui qu'on retrouve la Bible. Et on va voir ce que la Bible dit à propos de notre cœur. Le mot dans la Bible, cœur, est utilisé 844 fois, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et jamais, à ma connaissance, il est question de l'organe vital qui se trouve dans le milieu de notre poitrine. Il y a toujours un côté différent. Et puis, la meilleure définition que je peux vous donner sur le cœur, telle qu'on le voit dans la Bible, c'est que c'est la partie immatérielle de l'homme. C'est le fort intérieur, là où se trouvent les pensées, où résident les émotions et où se prennent les décisions. C'est pour ça, tantôt, j'ai fait allusion à la petite chanson qu'on a faite pour les enfants, parce qu'il était justement question de ça. Donc, l'Ancien Testament a beaucoup à nous dire sur notre cœur. Et en fait, c'est ce qui est... Ça nous dit ce qu'on est en dedans. Donc, on peut peut-être cacher cette partie-là aux autres personnes qui nous entourent, mais, encore une petite chanson, on ne peut pas le cacher à Dieu. On a failli faire « Tu peux jouer à la cachette ». Okay, donc, c'était, on avait le choix en deux chants ce matin, donc les deux avaient référence, donc il n'y a pas d'addon. Si l'état de santé de l'organe que vous avez dans le milieu de votre poitrine détermine la qualité de votre vie physique, la santé de votre corps immatériel détermine la qualité de votre marche avec Dieu. Donc, si après un examen médical, le docteur vous fait certaines recommandations, il dit de vous changer vos habitudes de vie, il dit de lâcher de fumer, il dit de commencer à faire de l'exercice. Est-ce que vous allez être prête à le faire? Donc, si on regarde notre cœur à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que on peut le faire? Et puis, on peut déterminer à la parole de Dieu de voir comment est notre être intérieur, comment... Et si on trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans notre cœur, est-ce qu'on serait prête à faire les changements qui s'imposent? Donc, cette étude-là, ils l'ont qualifiée comme une électrocardiographie spirituelle. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est où est... je l'ai dit tantôt, le titre, c'est « Où est notre cœur? » Donc je vais dire, dans la première étude, il était une prise de conscience de comment se retrouvait le cœur de l'homme. Et puis, lorsqu'on regarde, on peut constater dans la parole de Dieu que Dieu lui-même décrit le cœur de l'homme à son ébrut d'une façon qui n'est pas trop encourageante. Et puis, si on regarde le verset Jérémie 17:9, j'ai pas le temps de préparer des slides, là, mais si jamais il y a quelqu'un qui voudrait avoir plus tard les versets auxquels je vais faire référence, ils viendront me voir. Donc, Jérémie 17:9 nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Wow! Donc, ce n'est pas des mots tellement flatteurs et lorsqu'on on pourrait regarder le mot tortueux, okay, c'est quelque chose qui est vraiment pas drette, okay, qui te croche. Et puis, en plus de ça, celui qui a écrit ce proverbe-là, il va dire que même que le cœur est méchant. Quand on regarde à la création dans Genèse 1, en fait, je vais me référer à Genèse 1:31, lorsque Dieu, au moment de la création, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était pas seulement bon, c'était très bon. Genèse 1:31. Et on a vu aussi qu'après la chute, la situation elle a changé. Même si Dieu a apporté des jugements ou des avertissements, le cœur de l'homme, au cours des années, au cours des siècles, ne s'est jamais amélioré. En fait, Paul, il en a fait toute une... Dans l'Épître aux Romains, lorsqu'il a commencé son Épître, il a commencé à dire, il en est venu à la conclusion, au chapitre 3, verset 3, où ce qu'il a dit... Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et n'eût été de l'amour et de la grâce de Dieu, nous serions condamnés à passer l'éternité sans Dieu. Dieu a pourvu le salut de sa création la plus chère en envoyant son Fils mourir à notre place afin de nous réconcilier avec lui et de nous permettre d'avoir la vie éternelle. Donc, le sujet qui va être traité aujourd'hui, « Où est mon cœur? » On va le faire un peu dans le sens que nous sommes en train de faire une électrocardiographie spirituelle au moyen de la parole de Dieu. Et on va essayer de comprendre ce que Dieu a à nous montrer à ce sujet-là. En faisant des réflexions personnelles, en général, à quoi les gens de notre société accorde-t-il une grande valeur? Quelles choses nous préoccupent? Quelles sortes de choses est-ce qui nous préoccupent? Certains de vous auraient plusieurs réponses à dire. C'est quoi qui nous préoccupe? C'est-tu notre retraite? C'est d'avoir une belle grosse maison, d'être confortable, de bien paraître devant les autres? Dites-le, là. Tu sais, d'avoir le succès dans la vie. C'est quoi qui nous préoccupe? C'est quoi qui... La technologie, il y a toutes sortes de... C'est quoi qui nous donne... les gens sont préoccupés de toutes sortes de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que les choses révèlent quant aux désirs et pensées qui se trouvent dans le cœur des gens? Okay? Donc, lorsqu'on regarde les choses sur lesquelles on met le plus d'importance, ça a beaucoup à dire sur qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous autres. Et puis, quelle est l'importance de ces choses? On va y aller du côté personnel, à mes propres yeux. OK, c'est beau de dire, bien, lui, là, c'est rien que sa job. Ou bien, lui, là, c'est rien qu'une telle chose. Lui, c'est rien qu'une telle chose. Bien, nous autres-mêmes, là, si on fait un examen de conscience et on regarde, c'est quoi qui nous préoccupe le plus? À quelle chose est-ce qu'on passe le plus de temps? Ce que je chéris et ce qui me préoccupe en dit long sur ce qui se trouve dans mon cœur, dans mon fort intérieur. Donc, on va commencer par regarder dans l'Ancien Testament. Et le sous-titre que j'ai à ce petit passage-là, c'est « Toute notre vie dépend de notre cœur ». Et le verset qu'on va regarder, ça va être dans le Proverbe 4. On va commencer avec le Proverbe 23 qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Par ce verset-là, l'auteur des Proverbes, je crois que c'est Salomon, il est en train de nous dire que le cœur est notre point de départ, OK, de toutes les activités qu'on a à faire. Donc, c'est le cœur qui détermine l'orientation que va prendre notre vie. L'état de notre cœur indique le genre de vie que nous allons mener. Donc, selon ce verset-là. Ici, le mot « cœur » signifie plus que des pensées et des sentiments. En fait, le cœur, le mot « cœur » ici englobe aussi nos valeurs. On va tantôt, nous allons voir tantôt ce que je veux vous dire lorsque nous regardons notre passage dans le Nouveau Testament, parce qu'on va regarder un passage dans le Nouveau Testament qui fait allusion un peu à la même idée que l'auteur du proverbe ici. Les mots de l'auteur emploie pour faire ressortir l'importance de garder son cœur sont « plus que toute autre chose ». Garder son cœur pour Dieu n'est pas juste important, c'est la chose la plus importante que nous devrions faire. Donc, et l'auteur poursuit en donnant la raison, parce qu'il dit ici « car de lui », on parle du cœur ici, « viennent les sources de la vie ». Ça veut dire ça, les commencements, les débuts, les origines, le point de départ de toutes les activités de notre vie. Et puis, dans les versets suivants, soit les versets qui suivent, Proverbe 24 nous dit, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Ce verset applique l'exhortation de garder son cœur en veillant sur ce qu'on dit. Donc, la mention de la bouche là, et des lèvres dans la Bible là, vient rejoindre l'enseignement de Jésus dans Luc 6, 45, lorsqu'il dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Quand il y a quelque chose qui sort de notre bouche, là, que ce soit bon ou que ce soit méchant, ça vient du cœur, la plupart du temps. Donc, Proverbe 4, 25, lui, il dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent vers toi. Chaque croyant devrait garder ses yeux fixés sur le sentier de la sagesse. Si on va plus loin dans ce proverbe-là, le verset 11 nous parle de la sagesse. Et en se concentrant, sans se laisser distraire. Donc, on a vu que c'était les sentiments du cœur qui étaient le commencement. Après ça, On nous dit que c'est de notre bouche et maintenant c'est nos yeux. OK? Et Proverbes 4, 26 et 27 nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que toutes les voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Donc, de notre cœur, on voit également que ça démontre notre marche avec Dieu. Ici, on parle du chemin et on parle... ça peut être un petit peu du côté pas littéral, mais en tout cas de l'autre côté. Donc, du côté, vous savez, hein, je parle de ça avec les jeunes, puis là, j'ai un blanc de mémoire. Donc, en utilisant les mots « chemin » et « voie », l'auteur nous dit que la conduite du croyant devrait être intègre en restant sur le bon chemin. Ce passage nous indique à la fois un but qui est une vie réussie, et l'itinéraire ou la façon d'y parvenir est en restant sur le chemin de la sagesse. Donc, si on en revient à dire, c'est que garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, maintenant, on va regarder dans le Nouveau Testament ce que le Nouveau Testament va nous dire sur ce sujet-là. Et le verset clé pour ce que je vais vous mentionner, c'est Matthieu 6, 21, verset que tous connaissent et qui dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, avant d'aller plus loin, il serait peut-être bon d'examiner dans quel contexte Jésus a fait cette affirmation. Ces versets-là se retrouvent environ au milieu du sermon de la montagne. Okay? On sait que le sermon de la montagne, c'est Matthieu 5 à la fin de 7, et puis on trouve ça à peu près au milieu. Jésus venait juste d'enseigner à la foule au chapitre 5 ce que nous appelons les béatitudes, ainsi que d'autres enseignements qui démontraient au peuple qu'il était, Jésus par ses enseignements-là, était en train de démontrer au peuple qu'il était le Messie et que la justice qu'il exigeait n'était pas seulement caractérisé par des gestes extérieurs. La justice que le peuple recherchait à cette époque, c'était celle des scribes et des pharisiens et n'était pas suffisante. Donc, on sait qu'à maintes fois, Jésus a fait allusion à la justice. Continuez à suivre la justice des scribes et des pharisiens, vous allez voir où ça va vous mener. Donc, Jésus, c'est de ça qu'il est en train de parler ici. Et il dit qu'il n'était pas suffisant pour entrer dans le royaume de Dieu. Jésus, ce qu'il offrait, lui, c'était une justice intérieure fondée sur la foi dans la parole de Dieu. En fait, Jésus, ce qu'il apportait, c'était des précisions sur les enseignements que les pharisiens leur enseignaient. Ces mises au point étaient en sorte un rejet de ce qui leur était enseigné. Donc, Jésus est en train d'expliquer ce qu'est la vraie justice. Donc, au chapitre 6, Jésus va aller plus loin, puis il va dénoncer les actes hypocrites des pharisiens, et il les exhorte de ne pas jeûner, prier ou donner le monde de la façon que leur enseignent les pharisiens. Ça, ça fait partie de la vérité. Lorsqu'on regarde le chapitre 6, quand on regarde lorsque Jésus nous enseignait comment prier, quand il nous enseignait les trois éléments de la piété, il dit « lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, lorsque vous faites le monde. » Donc, ces trois éléments-là font, ça fait partie de la piété. Est-ce qu'un chrétien doit faire ça? Je pense que lorsque Jésus dit « lorsque vous », on ne doit même pas se poser la question, on doit le faire. OK? Est-ce qu'on doit faire le monde? Oui, on doit faire le monde. Est-ce qu'on doit jeûner? Oui, on doit jeûner. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'abstenir de manger pendant X nombre de temps. Mais par contre, en disant à personne, vous pouvez abstenir de, je sais pas, d'écouter, de pas écouter la télévision, de boire trois cafés au lieu de huit. Vous savez, c'est tous une façon de se discipliner soi-même. Et puis, mais par contre, qu'est-ce que les pharisiens faisaient, eux autres, lorsqu'ils jeûnaient? Bien, ils faisaient certain que tout le monde les voyait. Il y avait un visage de carême, comme on disait. Et puis, ils faisaient certain que tout le monde. Donc, est-ce que ça reflétait vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de leur cœur? Non. Donc, c'est ce que Jésus est en train de faire ici. Donc, Jésus exhorte les gens de ne pas faire ces actes comme le faisaient les pharisiens, en le faisant de façon publique. Il leur dit plutôt d'agir en secret, afin que leur récompense vienne du Père, qui voit et qui connaît tout ce qui est à l'intérieur de l'homme. Donc, l'attitude d'une personne à l'égard des richesses est souvent un baromètre de justice. C'était le cas des pharisiens. C'est ce dont il est question ici dans les versets 19 à 24. Donc, les pharisiens croyaient que le Seigneur allait bénissait matériellement tous ceux qui l'aimaient. Malheureusement, c'est ce que plusieurs croient encore aujourd'hui. Et cette doctrine, comme vous savez, le Prosperity Gospel, c'est que si tu es. C'est juste que Dieu récompense d'une façon davantage. Si tu es de Dieu, puis si tu es pauvre, bien, c'est parce que tu entretiens un péché dans ton cœur. C'est faux. Okay? Puis il y a plusieurs personnes du haut de la chair qui vont enseigner ce genre d'enseignement. Donc, si tu es chrétien et que tu es pauvre, c'est parce que tu entretiens un péché dans ta vie. Quel mensonge! Les pharisiens étaient résolus à accumuler de grands trésors sur la terre. Mais la parole de Dieu nous dit que les trésors accumulés ici-bas sont sujets au dépérissement ou au vol, tandis que les trésors déposés dans le ciel ne peuvent pas être perdus. Jacques, dans son épître, chapitre 5, verset 2 et 3, il dit « Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. » Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Et on revient avec notre verset qui dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Bien, dans ce verset, Jésus énonce un des principes les plus importants pour notre vie. Et après cette déclaration de Jésus, l'argent peut facilement remplacer Dieu et devenir notre trésor. Si vous vous souvenez, tantôt, j'ai posé des questions souvent. En général, à quoi les gens de notre société accordent-ils une grande valeur? De quelles choses se préoccupent-ils? Qu'est-ce que les choses révèlent quant aux désirs et pensées qui se trouvent dans le cœur des gens? Quelle est l'importance de ces choses à mes propres yeux? En réponse à ces questions, je peux faire l'affirmation suivante. Ce que je chéris et ce qui me préoccupe en dit long sur ce qui se trouve dans mon cœur, soit dans mon fort intérieur. Ici, il n'est pas question d'argent, ici. Votre trésor peut être n'importe quoi qui vous préoccupe le plus, n'importe quoi qui allait prendre la place numéro un dans votre vie, qui prend la place principale de votre cœur. Et ça peut être votre emploi, ça peut être votre santé, ça peut être vos enfants, vos petits-enfants. C'est certain que ces choses-là sont importantes. Et puis, ils sont importantes pour moi. Votre conjoint, votre avenir, votre retraite, c'est tous des choses qui sont importantes. Mais je dois vous dire que ce que je consacre beaucoup de temps à penser, votre église, OK, même votre église locale, même peut devenir une pierre d'achoppement peut devenir quelque chose que bien souvent, vous allez faire des choses d'église, vous allez faire des choses pour l'église, puis vous négligez votre famille, vous négligez Dieu lui-même. OK? Parce que bien souvent, on ne le fait pas par le bon motif. OK? On va faire les choses dans l'église bien souvent, puis je dois admettre que parfois, je dis « Ouais, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Je ne suis pas mieux que vous autres. » OK? Bien souvent, c'est ça, la façon que j'allais servir dans l'église, bien souvent, je me préoccupais plus à ce que les gens allaient penser de moi que à ce que je le faisais vraiment pour Dieu. Donc, vous voyez que même ces choses-là peuvent être, même les choses qu'on dit spirituelles, on peut souvent ressembler aux pharisiens. OK? Juste un court mot sur la sexualité. Les activités sexuelles impliquent l'être intérieur tout entier. Okay, ça, c'est quand on s'arrête et qu'on y pense. Et puis, soit le cœur, et ça implique le cœur et non seulement le corps. Donc, l'emprise de la sexualité peut être très puissante sur notre cœur. Et on ne devrait pas se soumettre, et nous devrions les soumettre lorsque nous avons cette chose-là sur la sexualité, c'est que nous devons les soumettre sous l'autorité de Dieu. Donc, comme vous voyez, à peu près toutes les phases de choses qui nous concernent à tous les jours peuvent avoir une importance. Et ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, ce qui va être remplacé, est-ce que ça prend la place de Dieu? Donc, ça fait partie de l'électrocardiographie que vous pouvez faire dans notre cœur intérieur. Donc, ce matin, on peut se dire, où est mon cœur? Où est mon cœur vraiment? Donc, je vais conclure avec ceci. Si nos désirs et nos motifs sont orientés vers les choses terrestres, ces choses finiront par devenir notre trésor. Par contre, si nos désirs et nos motifs se portent vers les choses célestes, notre vie reflétera cette réalité. Notre trésor sera Dieu et son royaume. Ce trésor aura plus de valeur que toute autre chose dans notre vie. Si nous considérons ce qui nous préoccupe et ce qui absorbe nos pensées, nous saurons quel est notre trésor et par conséquent, où est notre cœur. Si vous avez une réponse autre que Dieu sur la question que je viens de poser, confessez-le à lui. Exprimez à Dieu ce qui se trouve dans votre cœur. Revendiquez les promesses de Dieu, okay, vous avez vu avec les versets qu'on a lus, et persévérez dans cet exercice. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Avec la grâce de Dieu, tout est possible. Il s'ensuit de façon tout à fait naturelle que si notre cœur est au bon endroit, toutes les choses de notre vie seront à leur juste place. Donc, ceci conclut ce message. Et comme vous voyez, il y a plusieurs applications pratiques qui peuvent se faire. Et puis, cette semaine, si vous pouvez penser à cette réflexion, et puis la seule chose qu'on peut faire, le motif va être quoi? C'est que si je m'aperçois qu'il y a des choses, que mon trésor n'est pas vraiment là où il devrait être, bien, on peut se... Ou bien, si un jour il l'était, puis on a dévié de ça. Moi, présentement, je fais encore référence que j'étudie l'Apocalypse, c'est au verset 3. Et lorsque... Jésus a dit à travers de l'apôtre Jean, à travers de son messager, à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi. » Et puis, je trouve que c'est toujours une bonne chose, c'est que lorsque on divise un petit peu, que notre trésor n'est plus ce que Dieu veut que soit, que nous avons dévié, que notre trésor, Dieu nous donne toujours cette réponse-là, elle me résonne dans la tête. Comme vous ne pouvez pas savoir comment, c'est que souviens-toi d'où tu étais tombé. Souviens-toi où tu étais, où ce que tu marchais avec Dieu. Souviens-toi comment la joie que tu avais, ton premier amour. OK, il reproche ça à l'église d'Éphèse. Ce que je te reproche, c'est d'avoir perdu ton premier amour. Donc, si lors de notre premier amour, notre cœur était vraiment pour Dieu, que nous marchions pour Dieu, que notre cœur, notre fort intérieur, reflétait, ce qu'on reflétait à l'extérieur était ce que nous avions à l'intérieur. Dieu ne nous reste pas comme ça. Okay? On peut changer. Il s'agit de le reconnaître et de faire les changements. Okay? Donc, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, c'est notre verset clé qu'on avait aujourd'hui. Et il faudrait penser à ça. Tantôt, je demanderais peut-être à Marc de conclure la réunion avec « Chercher d'abord le royaume des cieux dans le champ nouveau ». Et puis, je crois que ça serait une belle conclusion pour ce message. On va juste prier. Père Céleste, on veut te remercier pour ta parole et on voit, Seigneur, que lorsque tu regardes l'homme, Seigneur, qui est laissé à lui-même, le portrait que tu vois, Seigneur, n'est pas tellement élogieux. Seigneur, en fait, tu nous dis que le cœur de l'homme est tortueux et qu'il est méchant. Mais grâce à ton Fils Jésus, Seigneur, tu as pu le délivrer, Seigneur, et de cet état, Seigneur, qui personne n'est bien à se sentir méchant, à se sentir avec un cœur tortueux. Et Père, ta parole nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement, Seigneur, que tu as envoyé par ta grâce, Seigneur, ton Fils Jésus payer le prix pour nous. Et que, en se confiant à toi, Seigneur, tu puisses nous restaurer et nous donner, Seigneur, cette joie, cette joie abondante, Seigneur, que de pouvoir marcher avec toi. Et que notre cœur, Seigneur, que ce que nous projetons à l'extérieur soit vraiment une réflexion de notre cœur, Seigneur. Père, je te demande de bénir chacune des personnes ici présentes et que dans leur vie, Seigneur, que tu puisses te manifester et sachant, Seigneur, que nous sommes ce que les gens vont voir de plus près de ce qui est de toi, Seigneur, car ton Saint-Esprit vit en nous et nous devons le démontrer à ce monde, Seigneur, de noirceur. Et que tu puisses te manifester avec nous et que tu puisses nous corriger lorsqu'il en a besoin, que nous en avons besoin. Et que ta gloire, Seigneur, soit reflétée à travers nos actions, nos pensées, nos paroles. Je te prie ces choses dans le nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen.